Bonjour à tous, vous êtes au collège Jeanne Nardal. Bienvenue dans notre émission consacrée au festival En Pays Rêvé. Je m'appelle Alex et avec mes camarades de la 4e A, nous allons interviewer une personnalité marquante. Journaliste et producteur français, il est né à Nice en 1974. Spécialiste des cultures francophones et de la francophonie, il produit et présente des émissions culturelles. Il crée et produit l'émission Quartier Libre, diffusée à la télévision sur la chaîne LCM et sur les radios locales de la région marseillaise. Spécialiste des thématiques urbaines, en particulier celles liées à la ville de Marseille, il animera quelque temps l'émission Culture Urbaine sur France Culture. Il a présenté de 2005 à 2024 sur France Inter l'émission La Librairie Francophone, diffusée dans les pays francophones sur France Inter et TV5 Monde. En 2022, il est récompensé par le prix Richelieu pour son engagement dans la défense de la langue française. L'Académie française lui décerne en 2024 le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française. Il a écrit La Massalia, 2600 ans de Marseille, en 2000, Regarde le monde, récit de voyage, à la rencontre des écrivains et des artistes, en 2024. Emmanuel Kirat, bienvenue au collège Jeanne Nardal.
Merci beaucoup, bonjour. Merci pour la présentation, elle est parfaite.
Merci. Vous êtes un habitué de la maison puisque vous étiez déjà venu au collège en 2023.
Exactement, et je suis très content de revenir parce qu'en 2023, on m'avait parlé d'un projet de web radio et j'avais dit si vous voulez que je vous aide, je serai là. Donc quand je suis descendu de l'avion, pour tout te dire, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une rencontre avec... J'avais mal lu mon programme et on m'a dit mais tu vas aller au collège du Diamant. Et j'ai dit ah mais ça y est, je me souviens, c'est pour la web radio, donc j'étais très content et j'attendais ce moment avec impatience.
Comment allez-vous ?
Ça va. Quand je suis en Martinique, ça va toujours très bien.
Les élèves de la 4e A souhaiteraient vous poser des questions.
Avec plaisir.
Sur votre parcours, votre métier de journaliste et votre participation au festival En Pays Rêvé. Mm-hmm. Nous allons écouter un premier groupe qui s'est intéressé à votre parcours professionnel. À toi, Lucas.
Quel a été votre parcours scolaire ? Quel genre d'élève étiez-vous ?
Alors, Lucas, tu imagines bien que j'étais un très bon élève. Non, je ne sais pas. Non, je n'étais pas très bon élève, en fait. J'étais médium, tu vois, entre les... Toujours bien la moyenne. Quand j'avais de très bonnes notes, j'étais très content. Et généralement, quand on est très bon élève, quand on a de très bonnes notes, c'est normal. Donc, je me souviens que quand j'en avais de très bonnes, j'étais très content. Donc, je n'étais pas un si bon élève que ça. Et puis, j'ai fait mes études, le collège et le lycée à Nice. Et puis après, je suis allé à Toulon, qui est à côté de Nice, pour faire une licence, enfin d'abord un DUT, ce qu'on appelait un DUT aujourd'hui, qui est devenu BUT aujourd'hui, ce qu'on appelait DUT, pardon, avant, qu'on appelle BUT aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai fait l'école de journalisme à Marseille. Et là, j'ai fait un bac plus 5 en information et communication. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Ça va, Lucas ? Oui.
Quel a été votre parcours pour devenir journaliste ?
Eh ben, je t'ai dit, l'école de journalisme. En 2 ans, après un bac plus 3, en 2 ans, une maîtrise, un DESS. Alors maintenant, ça n'a plus les mêmes noms, hein, c'est master. Et petit à petit, je me suis formé au journalisme ensuite, parce que tu sais, en fait, pour être journaliste, c'est la pratique qui compte. Donc très vite, j'ai travaillé à Marseille, puisque j'étais pour les études à Marseille. On a monté, comme on le disait tout à l'heure, une émission qui s'appelait Quartier Libre pour les radios locales. Donc je viens vraiment des radios locales, donc c'est pour ça qu'une web radio, je trouve ça très intéressant, parce qu'on commence comme ça, on commence avec des petites radios au départ, et puis après, on arrive, comme j'ai pu le faire, sur des radios nationales et internationales. Et à Marseille, j'ai fait une émission donc, qui s'intéressait à la vie sociale et culturelle des quartiers, donc Quartier Libre, et diffusée sur toutes les radios locales de Marseille et de sa région. Et à l'époque, il y a 20 ans, il y avait beaucoup, beaucoup de radios locales, et on avait 10 radios qui diffusaient l'émission. Donc on avait imaginé ça, on avait convoqué toutes les radios pour leur proposer le programme, en se disant il y en a bien une qui va accepter. Et en fait, pour la première fois dans l'histoire de la radio, tout un groupe de radios d'une région a dit « Ok, on diffuse, chacun a des jours et des heures qu'ils ont choisis ». Mais ils ont tous diffusé le programme et ça a eu un rayonnement incroyable. Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et après Radio France, France Inter, la télévision et tout.
À quel âge avez-vous commencé à travailler ?
Alors, à travailler comment ? Dans le métier ou à travailler tout court ? Ou avoir des petits jobs d'été, comme on dit ?
Les deux.
Les deux, jobs d'été très tôt. Dès que j'ai pu, je me souviens d'un, un travail que je faisais l'été en juillet-août pendant les vacances scolaires. C'était quand j'étais au lycée, je crois, en première ou terminale. Donc j'avais aux alentours de 16 ans, au moment où on a l'autorisation de travailler. J'avais travaillé tout un mois dans une entreprise qui remplissait des boîtes de rivets. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme des clous. Enfin, voilà. Et en fait, c'était pesé au gramme près. Et on savait grâce à la balance qu'on avait mis 100 ou 200 rivets. C'était horrible. Et j'avais gagné des sous grâce à ça. Et j'avais passé un mois tellement horrible parce que je me levais très tôt le matin, on finissait très tard. Et toute la journée, je remplissais des boîtes de rivets et de clous. Et c'était vraiment affligeant. Donc l'argent, en fait, je l'ai gardé. Et ça m'a tellement traumatisé que je ne l'ai jamais dépensé. Je l'ai mis de côté et je me suis dit, ça me donnera un peu d'argent. Si un jour j'ai un gros problème d'argent, bah, j'aurai au moins cet argent-là. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin je pense, il est encore sur mes comptes. Alors heureusement, j'ai gagné un peu ma vie depuis. Mais je crois que cet argent qui est aux alentours de 1000 euros, je pense, hein, ça doit être ça, il est sur un de mes comptes. Enfin, en tout cas, je me persuade qu'il est sur un de mes comptes épargne. Et je l'utiliserai vraiment en cas de grosse, grosse galère. Et après, j'ai travaillé juste après l'école de journalisme pour répondre à ta question dans le métier du journalisme assez vite, très vite. Très vite après les études.
Ok, c'est intéressant.
Pourquoi avez-vous fait le choix d'être journaliste ?
Alors, c'est compliqué, mais déjà, moi, j'aimais beaucoup les magazines quand j'avais votre âge. Tout mon argent de poche passait dans la musique. Alors aujourd'hui, vous avez tout sur les téléphones, mais nous, on achetait des CD. Des disques, et puis les magazines papier, les magazines sur la musique, sur la culture évidemment, sur les motos, sur les voitures. J'adorais le magazine, donc je mettais tout mon argent de poche là-dedans. Et je rêvais de faire de la radio parce que j'adorais la musique. Donc c'est arrivé un petit peu comme ça. Et puis quand j'ai été au lycée, j'avais raconté ça ici il y a 2 ans, j'ai un ami qui était mon copain de classe, hein. On a tous quelqu'un avec qui on est tout le temps à côté, et qui a été très malade, et qui a eu une maladie qui s'appelle la leucémie, et il a fallu qu'on lui trouve ce qu'on appelle un donneur de moelle osseuse pour le sauver. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de candidats qui font des prises de sang et qui voient si ils peuvent être compatibles pour faire ce qu'on appelle une greffe. Et donc pour ça, on a fait un appel aux médias, et les médias de toute la France et du monde entier sont venus pour m'interviewer et puis pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Ça avait touché en fait le public. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il est décédé un an après. Mais j'ai été en contact avec les médias comme ça de façon très brutale en fait, très violente parce que l'histoire était très dure. Mais je ne me rendais pas trop compte parce qu'il y avait un tourbillon, donc TF1, France 2, toutes les chaînes de télé et puis même des chaînes du monde entier qui étaient venues à Nice pour m'interviewer. Et puis, au-delà du drame, de ce que ça représentait, j'ai vu les journalistes travailler et j'ai trouvé ça passionnant. Et comme j'aimais déjà la radio, parce qu'il y avait des radios aussi, évidemment, qui étaient venues, pas que de la télé, pas que des chaînes de télé. Et voilà, je pense que c'est venu aussi inconsciemment à cette période-là.
Est-il difficile de rentrer dans une école de journalisme ?
C'est assez difficile, mais comme toutes les grandes écoles, tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très bon élève. Donc après, je suis devenu de meilleur élève hein, que quand j'étais au collège et au lycée. Quand j'étais en DUT, j'étais parmi les premiers. Donc ça a permis d'avoir accès à certaines écoles, et notamment à l'école de journalisme. Et comme j'avais fait en plus cette mobilisation, j'avais organisé cette mobilisation pour cet ami, et que j'étais dans tous les médias, l'école de journalisme à Marseille me connaissait, enfin avait entendu parler de moi. Donc ça aussi, ça a été le destin qui m'a aidé. Il y a toujours comme ça, tu sais, dans des destins de vie, même dans les difficultés, les drames que vous vivez, un moment où ce drame-là permet d'accéder à quelque chose, tu vois, c'est la force de la vie, c'est ça. Et je pense que voilà, ça m'a aidé pour rentrer dans cette école, même si j'ai passé quand même le concours. Donc il y a un concours écrit, après une interrogation orale. Généralement, il y a 500 candidats, ils en prennent 20 ou 30, tu vois, donc c'est assez compliqué, oui. Mais quand on en vit et quand on se motive, on peut y arriver. Tout le monde peut arriver à intégrer une grande école ou le métier dont il rêve s'il a vraiment envie. Quand on est motivé, on y arrive. C'est sûr. Il y a des énergies qui font que tu y arrives.
Pouvez-vous nous expliquer comment vos études et votre formation ont aidé à construire votre parcours ?
Quand on fait une école de journalisme, on est en contact évidemment avec des professeurs qui sont eux-mêmes journalistes. On a des stages, donc ça aide, ça va très vite. Tu vois, c'est contrairement à d'autres métiers où quand tu veux être ingénieur, par exemple, tu fais une école d'ingénieur et puis il y a multiples entreprises qui embauchent des ingénieurs, des dizaines de milliers. Là, les médias, il n'y en a pas non plus des dizaines de milliers. Hein. Donc, quand tu es dans une école de journalisme, tu es en contact avec un réseau qui te permet d'accéder plus facilement au métier. Et tu es vite repéré si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu es très motivé et que tu as envie d'y arriver. Ben, en général, tu es plutôt bon et tu es repéré. Et ça te permet de faire des stages et après de travailler. Ok.
Maintenant, d'autres élèves se sont interrogés sur votre expérience d'animateur et vos rencontres. Écoutons d'abord Kessiana.
Pourquoi avoir choisi des émissions littéraires ?
Alors, j'ai pas vraiment choisi des émissions littéraires. Au départ, moi, je suis journaliste culturel. Donc, j'ai fait les premières grosses émissions que j'ai faites, c'était sur France Inter. Et j'ai animé une émission qui s'appelait Escale Estivale pendant 10 ans, qui était un gros magazine d'actualité culturelle de 18h à 20h tous les jours. Et l'été, sur la période estivale, donc, comme son nom l'indique, et j'ai côtoyé plein d'artistes et on parlait à la fois de cinéma, de musique, de littérature. Et petit à petit, voilà, on m'a proposé une émission. L'idée, c'était de créer une émission sur les livres différente de ce qui existait déjà, en intégrant des libraires et en intégrant le fait que l'émission soit coproduite et diffusée en Suisse, en Belgique et au Canada. Donc il a fallu créer un concept. Donc j'ai créé ce concept de la librairie francophone et à partir de là, voilà, on a fait une émission autour des livres. Au départ, ils voulaient une émission littéraire et moi, je ne me sentais pas de faire une émission littéraire parce que je n'étais pas journaliste littéraire, je ne l'ai jamais été, je ne suis toujours pas. Donc j'ai ouvert l'émission à de la bande dessinée, à de la photographie, des essais, voilà, tout type de livres et pas que des romans, pas que de la littérature. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs à l'émission d'avoir du succès. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur les livres et je me suis rendu compte qu'à travers les livres, et je vous le dis aussi à vous, vous rencontrez plein de personnages, plein de personnalités, mais vous pouvez vous intéresser à tout type de culture, à tout type de discipline à travers les livres. Il n'y a pas que les romans, il faut le savoir. L'essentiel, c'est de lire. Donc la bande dessinée, la photo, les voyages, tout ça, c'est aussi dans les livres.
Pourriez-vous parler de votre première émission et qu'avez-vous ressenti ?
C'est-à-dire quand je l'ai présentée ? Quand j'étais à l'antenne ou pas ?
Oui.
Ouais. Bah, c'est très impressionnant. Toute première, c'était sur les radios locales. On enregistrait, j'étais stressé évidemment, mais bon, ça restait une émission de radio locale. Donc, il y avait un enjeu évidemment, mais j'étais bien entouré. On avait bien préparé, on s'était bien organisé. La difficulté, c'est quand je suis arrivé sur une grosse radio comme France Inter, en direct, avec des centaines de milliers d'auditeurs, et là, tu as un vrai stress. Et donc, la première, je me souviens, j'étais allé aux toilettes faire pipi, hein, puisque après, tu es coincé pendant une heure, donc même si tu n'as pas envie, tu y vas, tu te forces. Et là, j'avais tellement mal au cœur, et j'ai dit, je vais vomir, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas sortir de ces toilettes, c'est dans 10 minutes, je suis en direct. Et je commençais à avoir des sueurs froides, à transpirer, à être vraiment dans un état... J'ai dit, je vais m'évanouir dans les toilettes, ils ne vont jamais me trouver, en plus, dans les couloirs de la radio. Radio France, c'est immense. Et je m'étais isolé, en plus, j'avais choisi, parce qu'il y a plein de toilettes là-bas, c'est immense, vraiment, c'est très très grand. Et j'étais allé dans les toilettes un peu cachées, histoire de respirer, de faire des exercices de relaxation. Et là, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, écoute, si tu es là comme ça, à chaque fois que tu as une émission, ce n'est pas la peine, arrête le métier. Et je me suis conditionné à ça, je me souviens encore, hein. Et je suis arrivé en studio, bon, tout aussi stressé, mais beaucoup plus détendu, en me disant, bon, écoute, t'as rien à perdre. Au pire, si ça se passe mal, ça se passe mal, tu arrêteras. Mais si vraiment tu es dans cet état-là, autant arrêter tout de suite. Voilà, la première expérience, c'était pas génial.
Comment préparez-vous chaque émission ?
Avec beaucoup de rigueur. Je travaille beaucoup, parce que, comme le présentateur pourrait te le dire, le plus dur, c'est de préparer. Après, quand tu es devant le micro, c'est le plaisir. Puisque tout est prêt, donc tu as tout écrit en général, tu as préparé des questions, tu as préparé la structure de l'émission, ce qu'on appelle un conducteur, vous avez dû l'apprendre aussi pour la web radio, et le plus dur c'est la préparation. Donc le stress, moi aujourd'hui, il est quand je prépare l'émission. Là je suis très angoissé, j'ai toujours l'impression que je ne vais pas arriver à la préparer. Et une fois qu'elle est prête, je suis content. Voilà.
Quelle est votre émission préférée et quelle émission avez-vous eu le plus de plaisir à animer ?
Oula. Ah. Émission préférée, toujours confondue ou de les miennes
Oui, des vôtres ou confondues.
Bah, je vais être honnête avec toi. En fait, quand on fait une émission, quand on crée des émissions, on crée l'émission dont on rêve. Enfin, en général, sauf si la radio ou la télé vous impose une émission. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai eu cette chance-là et aujourd'hui, j'ai monté une société de production qui produit des programmes, donc je crée les programmes que je souhaite. Donc mes émissions préférées, évidemment, c'est les miennes. C'est pas parce qu'elles sont bien présentées, hein, c'est pas à moi de le dire, ça. Hein. Peut-être que je suis très mauvais, je sais pas. Mais en tout cas, le contenu de l'émission, la structure ou ce qu'on porte dans l'émission, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de voir et c'est ce que j'ai envie d'entendre. Voilà. Après, je regarde pas trop les autres émissions. J'aime bien les émissions de voyage en général. J'aime bien les émissions qui sont tournées hors studio. C'est pour ça que je fais beaucoup ça en ce moment. Des émissions en déambulation, comme on dit, avec des invités. Là, on en fait une ici en Martinique. Et l'idée, après, de l'émission que j'ai eu le plus de plaisir à présenter, j'aime beaucoup le direct. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter des émissions en direct. Que sur France Inter, parce que la librairie francophone était diffusée sur d'autres radios, donc ça a imposé des contraintes. Mais quand j'étais sur une émission en direct que sur France Inter, il y avait une forme de liberté. Je m'adressais qu'à un public français, donc c'était plus, entre guillemets, facile. Et puis, il y avait l'énergie du direct. Voilà. J'ai aimé ça. J'ai fait une émission qui s'appelle le Pop Club. Tu n'as pas connu, puis moi non plus, hein, parce que j'étais petit quand ça a commencé. C'était une émission historique avec José Arthur, un très vieil animateur qui a marqué toute une génération, la génération de mes parents et grands-parents. Et José Arthur, à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie, parce qu'il était très âgé, hein, il est resté au micro jusqu'à 80 ans, il a été malade et je l'ai remplacé pendant un mois. Et le Pop Club, qui était une émission de légende, en fait, pour nos parents, grands-parents, était tournée sur les Champs-Élysées. Ils avaient délocalisé le studio, donc on était sur les Champs-Élysées en direct, avec des artistes à 22h qui sortaient de scène, ou des musiciens qui venaient jouer. Enfin, c'était incroyable, ça, sur les Champs-Élysées. Et on m'a fait présenter l'émission pendant un mois. Et ça, ça a été incroyable parce que je me retrouvais à Paris, sur les Champs-Élysées, avec des vedettes, en direct, enfin tout ce que j'aimais, à présenter une émission que mes parents avaient admirée. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Mais après, l'émission que j'ai aimée, c'est la librairie francophone, parce que je l'ai présentée pendant 20 ans et ça a été une expérience incroyable.
Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la préparation d'une émission et qu'est-ce qui reste le plus difficile, même avec l'expérience ?
La préparation, ce que je te disais. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de présenter, d'être au micro, parce que tout est préparé. Et le plus difficile, malgré l'expérience, c'est de préparer, alors pas la structure, mais de créer une interview. Puisque moi, je reçois des invités à chaque fois. Et quand on a des personnalités, souvent, même quand on les connaît déjà, c'est encore plus difficile. Parce qu'on les a déjà interviewés, parce qu'il y a une sorte de connivence aussi, on les connaît. Donc il faut être professionnel, il faut penser d'abord au public et pas à soi. Donc le plus dur, c'est de préparer un entretien et de se dire, voilà, il faut que j'arrive à rassembler le plus de monde possible et à intéresser le plus de monde possible. Ça, c'est difficile. Et ce qui m'enthousiasme, pour sortir un peu de ta question, c'est de rencontrer des jeunes qui veulent faire ce métier comme là. Mais je le dis sincèrement parce que j'aime vraiment ça. Et la transmission, je trouve que c'est très important. Alors, des jeunes journalistes qui sont déjà en place, évidemment, et puis des jeunes comme vous au collège qui s'intéressent à la radio, bah, c'est important pour moi parce que j'ai commencé comme ça, moi. Je me suis intéressé à la radio quand j'avais votre âge.
Au cours de vos émissions, quelles personnalités avez-vous eu l'occasion de rencontrer et comment ont-elles influencé votre travail ?
Bah, j'en ai eu beaucoup, tu sais, des plus que des centaines, des milliers, je pense. Donc je ne peux pas te donner de nom. Il y a eu des stars internationales, il y a eu des écrivains pas connus du tout, qu'on a révélés, qui sont devenus connus après. Des artistes de musique, des rencontres incroyables. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc je ne peux pas te donner de nom. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la deuxième partie de la question, c'était quoi ?
Comment ont-elles influencé votre travail ?
Ben, elles ont influencé, c'est l'expérience, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'à force d'interviewer des personnalités différentes, tu acquiers de l'expérience et ça te permet justement d'ajuster ton travail et de faire les entretiens différemment, évidemment, que quand tu les as construits au début de ta carrière. Y a des galères aussi, tu vois, par exemple, là vous m'avez invité, j'aurais pu avoir 20 minutes de retard. Donc il faut, si vous étiez en direct, trouver le moyen de combler les 20 minutes de retard. J'aurais pu ne pas venir aussi. Et si vous aviez été en direct, il aurait fallu trouver un remplaçant d'urgence. Et voilà, donc ça, c'est l'expérience qui fait que tu arrives petit à petit à faire la meilleure émission possible. Attends, je bois un coup, j'ai un chat dans la gorge.
important.
Nous allons maintenant écouter Nathan, Dominique, Roman et Isaura qui vont vous poser des questions sur votre implication dans la formation des jeunes. Nathan, on t'écoute.
Que proposez-vous pour intéresser les élèves à la littérature française ?
Bonjour Nathan, qu'est-ce que tu aimes toi comme livre par exemple ?
Comment ?
Quel type de livre tu aimes ?
Le roman.
Le roman ? En fait, moi ce que je conseille, c'est de prendre un livre dans une bibliothèque qui t'attire, qui vous attire, soit par la couverture, soit par le format, soit par la qualité du papier, peu importe, et de commencer à le lire. Voilà. C'est comme ça que ça vient. Beaucoup n'aiment pas les romans. Moi, à votre âge, je n'aimais pas les romans. Je détestais ça. Balzac, Flaubert, tout ça, c'était impossible. J'ai aimé Balzac bien après. Après, c'est devenu même mon auteur préféré dans les classiques. Mais il faut prendre un livre. Là, j'en vois plein là, autour de nous parce que vous avez une bibliothèque. On est dans le CDI. Et la couverture, c'est très important quand on commence à s'initier au livre. Donc, il faut prendre les livres. Je connais des parents, par exemple, qui laissent leur bibliothèque ouverte et qui disent à leurs enfants, quel que soit leur âge, prends ce que tu veux. Regarde le livre que tu veux et commence à regarder sans pour autant lire. Tu peux regarder les images, il y a des images, et la couverture, lire juste la quatrième de couverture. Peu importe, prenez un livre et regardez. Et s'il vous intéresse pas, s'il ne vous intéresse pas, surtout, laissez tomber, passez à un autre. Voilà.
Pourquoi pensez-vous-t-il qu'il est important d'encourager les jeunes à lire et à s'intéresser aux auteurs francophones?
Alors déjà les auteurs francophones parce que c'est notre langue commune à tous. La francophonie, c'est très important. C'est une ouverture sur le monde aussi, la francophonie, parce qu'il n'y a pas que les Français qui parlent français, évidemment. Il y a aussi des Canadiens, des Suisses, des Belgiques, plein de pays d'Afrique. Donc c'est très important de s'intéresser aux auteurs francophones. Et ça permet voilà, d'avoir un regard sur le monde à travers une langue que tu pratiques. Donc ça, c'est très important. Et les départements d'outre-mer, dont les Antilles, avec la Guadeloupe, la Martinique, ont joué un grand rôle dans la francophonie, avec des grands auteurs et des grands poètes qu'il faut lire, parce que ce sont eux qui ont influencé toute une génération et tout un courant littéraire. Donc ça, voilà, c'est important de s'intéresser aux auteurs de la francophonie, à commencer par les auteurs des Antilles. J'ai répondu à ta question ou j'ai oublié une partie ? Non, c'est bon.
Quand vous échangez avec les jeunes autour de la lecture, qu'est-ce qui vous surprend ou vous touche le plus ?
Alors c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'on lance une nouvelle émission qui va être... on crée une nouvelle émission qui va être lancée à toute fin d'année. Et on a décidé que toutes les semaines, c'est une émission hebdo de télévision, que toutes les semaines, on ait un jeune lycéen qui nous parle d'un livre qui a illuminé sa vie. Donc on a commencé à tourner des émissions d'avance. Et je suis à chaque fois impressionné parce qu'on a plusieurs invités, évidemment, dans cette émission. Et je trouve que la séquence qui marche le mieux, c'est celle-là. C'est ce lycéen qui arrive et qui nous parle de 1984 ou d'un livre qu'il a lu quand il était gamin ou d'une bande dessinée et qui en parle avec une telle passion pendant deux... Ça dure que deux minutes, tu vois. Et je trouve ça formidable de voir un élève, un jeune de 17 ans, avoir cette passion déjà pour le livre, pour un livre et pour un sujet, et de nous le raconter comme ça devant des caméras de télévision, c'est pas facile. Tu vois, déjà, devant un micro, c'est compliqué, alors quand t'as les caméras, en plus, c'est encore plus dur. Et ça m'impressionne et ça m'émeut beaucoup, en fait, de voir ça. Je trouve ça magnifique. Et pour moi, ceux qui conseillent le mieux les livres, ce sont les jeunes, en fait. Les adultes, ils ont toujours des formes d'arguments qui sont un peu toujours les mêmes ou des intérêts personnels. Le jeune comme vous, de votre âge, ou le jeune de 17 ans, lui, c'est instinctif. Il va te dire vraiment pourquoi il a aimé. Et il va vraiment te raconter la vérité, quoi, sans tricher.
Quelle influence souhaitez-vous que vos interventions aient auprès des élèves ?
De leur donner l'envie, la passion, de ne pas trop les ennuyer. J'espère que là, je ne suis pas saoulant, comme on dit. J'espère que ça vous passionne quand on parle de tout ça. Et d'être accessible et de parler entre jeunes, quoi.
Depuis quelques années, vous participez au festival.
Attends, reprends tout. Le micro tombe. Attends, reprends.
Depuis quelques années, vous participez au festival en pays rêvé. Je crois que Farid a une question à vous poser à ce sujet.
Alors attends, je peux me permettre un conseil ou pas? On va reprendre. Là, c'est juste un conseil. Hein. Quand tu lis une question, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que tu la lises. D'accord? Donc, à la fois tu la lis et en même temps, c'est comme si tu parlais. Donc, je vais t'en lire une, par exemple. Tu vois, si je le fais de façon un peu scolaire, en lisant, ça donnerait « Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la préparation d'une émission et qu'est-ce qui reste le plus difficile, même avec l'expérience ?» Ça, c'est une question lue. Quand tu animes une émission, et je le dis à tous, parce que vous êtes amenés à poser des questions à un moment, il faut que tu te détaches de ça. Donc, il faut que tu le fasses comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la préparation d'une émission? Et surtout, qu'est-ce qui reste le plus difficile, même avec l'expérience que vous avez? Tu vois, là, je sors un petit peu de la lecture. Tu vois ce que je veux dire? En rajoutant un mot ou deux. Comme quand tu parles à tes camarades. Tu peux essayer de le faire ou pas? Depuis quelques années, vous...
C'est quoi la question?
C'est l'envers. On va le faire. Depuis quelques années, vous participez au festival En Pays Rêvé. Je crois que Farel a une question à vous poser à ce sujet. Tu peux le faire avec ce ton-là?
Okay.
Allez, vas-y.
Depuis quelques années, vous participez au festival En Pays Rêvé.
Oui.
Je crois que Farel a une question à vous poser à ce sujet.
Allons-y, Farel.
Que représente pour vous le festival En Pays Rêvé?
Un festival génial, éclectique, c'est ce que j'ai dit lors de l'ouverture. Je suis très étonné à chaque fois des invités qui sont là parce que c'est assez improbable au départ, c'est très varié. Et on se dit que ces invités ne vont pas ensemble. Et au fil de la semaine, comme tout le monde loge au même endroit ici au Diamant, il y a une énergie qui se génère, enfin il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que cette diversité, cet éclectisme fait la force de ce festival. C'est absolument magnifique et je trouve que c'est très bien organisé. On est dans de très bonnes conditions, les invités sont très contents d'être là. Et il se passe des choses qui ne se passeraient pas ailleurs sur un autre festival. Donc il faut absolument préserver cet événement et faire en sorte qu'il continue à exister. Alors grâce aux scolaires, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans les lycées et collèges, et c'est la force aussi du festival de permettre à des collégiens, à des lycéens de rencontrer des journalistes et des écrivains. Et ça, voilà, c'est vraiment essentiel. Et je pense que l'émission qu'on est en train de faire là est un exemple même de l'importance de ce festival.
Qu'aimez-vous particulièrement dans le festival En Pays Rêvé?
Je viens de te dire. Mais déjà, moi, à titre personnel, j'aime bien être au Diamant parce que j'adore le Diamant. Je conseille toujours, je suis venu plein de fois en Martinique, hein, ça fait 10 ans que je viens, pas que pour le festival. Et quand on me dit, mais alors en Martinique, tu me conseilles d'aller où? Alors je leur dis, bon, déjà, vous ne restez pas une semaine, vous restez au moins 10 jours, 15 jours. Et je leur dis, allez 5 jours au Diamant et restez au Diamant dès que vous arrivez, parce qu'on a l'impression d'être un peu hors du monde et dans un apaisement total. Il y a tout ce qu'il faut au Diamant, ça suffit. Il y a un petit supermarché, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, au supermarché, c'est une catastrophe, mais il y a un petit supermarché, il y a quelques bars, 2-3 restaurants, il y a un petit marché, il y a une paillote qui s'appelle les Acras du Rocher où on mange les meilleurs acras. Et vous avez la plage, vous pouvez marcher le long de la plage et ça suffit, vous restez 5 jours là et vous êtes ressourcés et après vous partez 5 jours en balade pour découvrir la Martinique. Donc moi ce qui me plaît dans le festival c'est d'être ici au Diamant et tout ce que j'ai dit avant, évidemment l'importance de ce festival et l'existence d'un festival comme celui-ci est essentielle. Il faut défendre ce genre d'initiative aujourd'hui.
Si vous pouviez créer un festival littéraire francophone idéal, à quoi ressemblerait-il et qui inviteriez-vous?
Un peu à celui-là. Un mélange entre un festival que j'aide chaque année, qui est la fête du livre de Hyères. Hyères, c'est dans le Var, entre Nice et Toulon. Et tous les ans, au mois de mai, on organise un salon du livre sur 3 jours. Et j'invite une dizaine d'auteurs. Et puis le festival en invite 100 de plus, hein. il y a à peu près 150 auteurs, donc il y a de la bande dessinée aussi, donc il y a 150 auteurs, et moi j'en choisis 10. Et j'invite des prix Nobel, des prix Goncourt, enfin de grandes personnalités que je connais, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à mes émissions, donc elles viennent pour moi. Donc Jean-Marie Gustave Leclésio est venu, Daniela Ferrière est venue, Alain Mabankou, enfin tous les grands auteurs d'aujourd'hui. Et voilà, j'aimerais effectivement, si on crée un festival de littérature francophone, ou en tout cas un festival de la francophonie, c'est en projet d'ailleurs, j'aimerais qu'en Méditerranée, au bord de la Méditerranée, donc entre Marseille et Nice, il faudrait voir quel lieu, on est en train de réfléchir, on ait un grand festival de la francophonie avec des écrivains, et donc comme je disais, un mélange entre Festival En Pays Rêvé et la fête du livre de Hyères, et en même temps qu'on invite des artistes, des musiciens, qui puissent jouer ou interpréter des textes. Voilà, ça c'est un rêve que je caresse, pas que en moi, mais que j'essaye de promouvoir et j'essaye de faire financer pour le mettre en place.
Votre livre « Regarde le monde » paru aux éditions Stock en 2024 est une invitation à voyager dans le monde de la francophonie.
Oui.
Quand on regarde le monde avec les yeux d'Emmanuel Kairad, que voit-on ?
On voit tout ce qu'il y a dans le livre. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la diversité. On voit cette incroyable richesse, comme je disais tout à l'heure, des pays francophones, parce que ce sont des pays francophones dont je parle dans ce livre. Et cette richesse culturelle, cette richesse de l'échange entre humains qui parlent la même langue. On voit de la fraternité aussi, beaucoup, de la tolérance, de la douceur, même si parfois c'est très violent. Et j'ai un chapitre sur Haïti où je raconte que je ne suis pas sûr d'y retourner un jour parce que ça a été une expérience très éprouvante de voir cette pauvreté. Une forme de violence aussi puisque les hôtels sont protégés par des hommes armés et quand on rentre dans un hôtel avec deux personnes qui ont des fusils dans les mains, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis en Haïti, il y a un désespoir et un désastre absolu puisqu'on est dans la Caraïbe et quand on voit la Martinique, la Guadeloupe qui sont quand même juste à côté, Haïti est très délabré et a vraiment négliger l'écologie, les politiques n'ont rien fait pendant plein d'années et aujourd'hui les plages sont jonchées de détritus par exemple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un pied dans l'eau dans les plages de Port-au-Prince en tout cas. Et quand on décolle en avion et qu'on survole Haïti, on voit une marée noire tout autour de la baie de Port-au-Prince et après on arrive en Guadeloupe ou en Martinique et on voit quelque chose de complètement différent, de paradisiaque quand on voit l'eau translucide. Et je trouve ça terrible. Donc voilà, voir ça, ça fait beaucoup de mal, surtout dans des endroits qui sont proches. Voir des pays en guerre aussi, qui ont été en guerre comme le Liban, parce qu'il y a un chapitre aussi sur le Liban, avec des contrôles, ce qu'on appelle des checkpoints partout, même en temps de paix, avec aussi la possibilité qu'ont intégré les Libanais, qu'à tout moment il peut se passer quelque chose, un attentat ou un missile, c'est affreux à vivre. Donc voir le monde comme ça, c'est pas très agréable. Et puis, en même temps, dans ces pays-là, et Haïti, le Liban, on rencontre des personnes formidables qui ont une énergie de vivre incroyable, qui n'ont pas la chance que nous avons tous, là, ici, de pouvoir vivre dans une forme de confort, quand même, et qui sont, malgré tout, très joyeux, très accueillants, et qui ont une soif de vivre incroyable. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Kairad, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Mais il n'y a pas de quoi, Alex. Merci pour la présentation. Très belle présentation, très bonne question. Félicitations, continuez cette web radio. Et si vous voulez, je vous aiderai. Vous m'appelez quand vous voulez. Ok ?
C'est toujours un plaisir de vous recevoir au Collège Jeanne Nardel. Notre émission touche à sa fin. Mais avant, j'aurais une dernière question. Quel conseil nous donneriez-vous pour nous améliorer ?
Ben, de vous entraîner le plus possible. De vous entraîner même dans votre chambre tout seul, de lire les questions en essayant de vous détacher du texte, c'est ça qui est le plus difficile et c'est comme ça qu'on devient un journaliste de radio confirmé. Voilà, je t'en ai donné quelques-uns pendant les pauses qu'on a faites lors de cette émission. Il faut s'entraîner, c'est de la pratique. Et il ne faut pas présenter une émission si vous n'avez pas envie de la présenter, ça c'est important. C'est-à-dire que dans les métiers de l'audiovisuel, radio et télévision, il y a plein de métiers possibles. Vous pouvez être assistant, attaché de production, organiser le plateau, les invités, réaliser aussi à la technique le programme. On n'est pas obligé d'être au micro. Ceux qui sont au micro doivent être très motivés parce que sinon on fait mal son travail. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire du micro, comme on dit, qu'on ne peut pas travailler à la radio ou à la télé. Il y a plein de métiers possibles. Donc choisissez la voie qui vous convient le mieux. Et à partir de là, vous serez forcément un très bon technicien, un très bon attaché de production ou un très bon journaliste présentateur.
Merci de ces précieux conseils. C'est ainsi que s'achève notre émission avec comme invité d'honneur M. Emmanuel Kairad que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Merci M. Kairad, merci aux élèves de la 4e A et à Layane à la technique. À bientôt pour une nouvelle émission.
Merci, au revoir.